Il y a pneumat, charismata, dorea, doma, dorema. Et tous ces mots-là sont, pour la plupart, sont interchangeables selon le contexte qu'on voit. Puis le même dictionnaire, lui, il commence par, et je cite, là, « La question des dons spirituels dans la Bible, déjà difficile en elle-même, a été rendue extrêmement complexe par le débat et dispute auxquels elle a donné lieu dans différentes traditions, c'est-à-dire ecclésiastiques, dès le début du 20e siècle. » Ça veut dire qu'avant le 20e siècle, c'était compliqué. Mais après, ça a été encore plus compliqué à cause de tous les débats qu'il y a eu. Je n'ai pas fouillé pour savoir quels étaient ces débats-là. Mais c'est pour ça que c'est bien important de comprendre la signification du mot que Paul emploie lorsqu'il parle de don spirituel. Et c'est justement le mot charisma que Dieu emploie et qui est traduit par don dans le verset qui parle de don d'esprit. Dans Corinthiens 12, c'est charisma. Vous voyez, au pluriel, c'est charisma. Mais ce mot-là, il est donné par grâce, du don gratuit. Et dans Romains 5, 15 et 16, qui dit, mais il n'en est pas de même du don gratuit, comme de la faute. Car c'est par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et j'ai regardé les différents dictionnaires grecs-français aussi. Puis j'en ai choisi un qui est. Ce n'est pas un dictionnaire qui a religieux ou relatif à le grec. C'est un dictionnaire qui enseigne le grec dans le monde. Lui, il donne comme unique définition à charisma, une grâce, une faveur, un bienfait. Puis il donne justement à Romains 6, 23 comme référence. Mais il dit qu'en le sang, je suis juste, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Mais qu'on voit clairement ici que le mot don prend toute une autre signification. C'est pas ni une capacité, ni une attitude, mais c'est un don de grâce qui nous est donné gratuitement, sans mérite. De notre part. On peut dire qu'il y a la traduction. Du grec au français, c'est la bonne, c'est la même, c'est un don. Ce qui est différent, c'est l'interprétation ou la définition qui a changé avec la lettre. Comme on avait vu avec le mot église, la signification a changé. Si on prend, par exemple, la définition du baptême que nous donne le petit Robert, c'est sacrement destiné à laver le péché originel. Et le dictionnaire grec lui donne comme définition immergé, plongé. Donc il y a une bonne différence. Il faut bien regarder les mots dans les textes originaux que les apôtres ont voulu voir. Et là, puisqu'on parle de dons ou de manifestations spirituelles, ce ne sont pas les dons qui nous ont été donnés à la naissance qu'on parle, mais plutôt lorsque nous avons reçu l'Esprit, lors de notre conversion, de notre nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il faut trouver dans nos attitudes, dans nos talents, dans nos dispositions que nous avions pas avant. Et qu'on a eu après notre nouvelle naissance. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et moi, je peux vous dire que j'ai beau chercher, Parce que puis quand même, mon Seigneur, j'avais bien de l'avant, j'avais des talents avant, j'avais des aptitudes avant. J'ai cherché qu'est-ce que j'avais pas avant, qui est venu là, je n'ai pas trouvé après 43 ans de recherche. Mais là, je cherche plus. Mais c'est important de comprendre, parce que si je découvre la vraie signification du mot don, comme je crois que nous allons le voir plus tard, et si je découvre le don et la fonction que le Seigneur m'a donnée, à ce moment-là, pour accomplir ma fonction, je pourrais utiliser mes instruments, mes talents que le Seigneur m'a donnés naturellement. Je ne veux pas le mêler, là. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez de nous. Ça m'a pris un temps avant d'assimiler ça. Parce que j'avais dans la tête ma vieille pensée de. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que, comme j'ai dit tantôt, tout nous vient de Dieu. Les dons naturels et les dons de l'esprit. Et nous sommes tous différents avec des talents, des aptitudes qui nous sont donnés par Dieu à notre naissance. Il faut, dans la plupart du temps, les développer, ces dons-là. Par exemple, si quelqu'un a une aptitude ou un talent en musique, comme on le voit là, mais que ces personnes-là, oui, ils pensent qu'ils ont des talents parce qu'ils ont une oreille, qu'ils ont tout ça. Mais ils ne pratiquent pas. Ils n'ont jamais pratiqué de lui. Ça ne peut pas des grands musiciens, ça. Et s'il essaierait, il ferait, il faut qu'il développe. Puis la plupart des, en tout cas que je vois, qui ont eu des talents, qui sont rendus haut, c'est parce qu'ils ont travaillé fort, ils ont développé pour devenir bon. Donc, je disais que je n'ai pas trouvé mes attitudes. Dans un domaine qui a été donné après ma nouvelle naissance, même en examinant les définitions qu'on a données la plupart des dictionnaires, des commentaires, parce que je ne sais pas aussi si vous remarquez, en particulier ce qu'on dit, eux autres, ils ont le don de servir. Ça, là, c'est des serviteurs, ils ont le don de servir. Mais si vous remarquez, il était d'excellents serviteurs avant même que je convertisse. Moi, je me souviens de mon voisin. Avant de se convertir, il était un excellent serviteur. Quand il s'est converti, il a continué à être un excellent serviteur. Est-ce que c'est le don de l'esprit, ça? Ou c'est son don naturel? Mais pourquoi aussi celui qui a le don d'enseigner? Va-t-il étudier pendant des années pour comprendre la façon, pour comprendre, puis pour être capable de transmettre sa connaissance? Si c'est un don qui vient de Dieu, comment se fait qu'il a besoin de ça? Et là, c'est en me posant des questions. En faisant des recherches sur les dons, il y a quelques années, j'ai trouvé un article sur les dons dans le dictionnaire théologique biblique. C'est un article qui était écrit par. Puis là, je vais tout de même regarder son nom, je ne connais toujours pas ce monsieur-là. Sylvain Romerowski, qui a fait, entre autres, des commentaires sur Noël et Adias. Il en a fait un autre sur l'Apocalypse de Jean. Ces commentaires-là sont le commentaire de la Bible, le commentaire biblique de la Bible, en Europe. En voyant cet article-là, je me suis dit que si les éditions Excelsis qui sont en Europe ont permis, M. Romanowski, d'écrire un tel texte dans leur dictionnaire, c'est qu'il y avait dans cet article matière à réflexion. Ce n'est pas tout du fou, là, certain. Puis en regardant ça, j'ai trouvé qu'il était pas mal plus qualifié pour moi Il y avait les meilleurs mots aussi pour l'expliquer. Et c'est la raison pour laquelle, pour un petit temps, je vais vous le citer textuellement, selon l'auteur, pour vous faire comprendre. Sur la coordination des membres. Mais si tu savais, en faisant ça aussi, je suis conscient qu'il peut y avoir la répétition un peu avec donc, ce dont vient de parler. Mais si je ne me trompe pas, c'est là qu'il me dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à comprendre, mais il faut se le répéter. Puis je trouve que c'est important de bien comprendre si on veut être utile à Christ. Mais dans son article, M. Ramalowski mentionne que dans le Nouveau Testament, l'adjectif spirituel est le plus souvent utilisé pour ce qui a rapport au Saint-Esprit. Ce qui vient de lui, ce qui bénéficie de son action, qui est animé par lui. L'expression don spirituel peut donc désigner un don communiqué par le Saint-Esprit. Mais là, il dit que cette expression-là n'apparaît qu'une fois dans l'Écriture, dans Romains 11, où elle désigne les bénéfices bienfaits que Paul voudrait communiquer aux chrétiens de Rome par son ministère et par l'action du Saint-Esprit. Certaines versions françaises emploient l'expression don spirituel ailleurs dans le Nouveau Testament sans que le texte grec porte une expression de ce sens. Comme dans 1 Corinthiens 12, 1, 1 Corinthiens 14, 1, et l'usage de Romains 1, 11 ne correspond pas exactement à celui que nous faisons de nos jours en expression don spirituel. C'est la raison pour laquelle il nous faut définir notre sujet. C'est un sujet difficile puisque tout ce que Dieu a fait depuis la création, il l'a fait par son esprit. Et tout ce que nous avons est en quelque sorte le don de l'esprit, même nos talents, notre force, notre santé, nos aptitudes. Mais lorsque nous parlons de don spirituel dans ce contexte, nous parlons de quelqu'un qui est habité par l'esprit, et avant de considérer ce qui est donné par l'esprit, il ne faut pas oublier que l'esprit lui-même est présenté comme un don. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui étaient là. C'est un don que Dieu a donné. Mais si on vient à notre sujet, Paul utilise dans plusieurs textes le mot grec charisme. Donc, on considère souvent qu'il a le sens de don spirituel. Et par là, on entend un don, c'est-à-dire une capacité, une attitude, accordé à un chrétien en vue de l'exercice d'un ministère ou de l'activité au service de Dieu et de l'Église. Et on considère que c'est de cela qu'il est mention, qu'il est question, c'est-à-dire dans divers textes comme dans Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 4 et 9 et 28, 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6. On lit alors ces textes comme enseignant que chaque chrétien est un ou plusieurs dons qu'il est appelé à mettre au service des autres au sein de l'Église. Mais selon encore l'auteur, M. Romanowski, il y a méprise sur le sens du mot charisme. Ce mot a d'abord pas à lui seul le sens de don spirituel. Puisque pour dire don spirituel, Paul ajoute l'adjectif pneumatikos, spirituelle, comme dans Romains 11. Et il dit aussi que nous sommes probablement induits en erreur du fait que le mot don est susceptible de prendre deux sens distincts en français. Celui de don donné, c'est-à-dire un cadeau, et celui du don qu'on est doué, c'est-à-dire la capacité d'aptitude particulière. Or, le terme n'a quant à lui que le premier sens de don donné et non de don doué. Charisma désigne simplement un cadeau, quelque chose qui a été donné gratuitement. Dans Romains 6, 23, Paul utilise ce mot à propos de la vie éternelle, qui est un don gratuit, une grâce. Dans Romains 5, 15 à 17, le mot employé à propos de la justification en parallèle avec le mot doréna, verset 16, et doréa, verset 17, qui sont tous deux le sens de don donné. Ainsi qu'avec l'expression doréa ou charismatique, don accordé par grâce au verset 15, le mot charisma paraît interchangeable avec des mots qui servent simplement à varier le vocabulaire. C'est des synonymes. Et le mot charisme peut porter le sens de faveur, d'une grâce, et pas seulement de don. Et le mot charisme, grâce, qui vient encore ajouter, c'est... Le mot charisme sort encore à invoquer le bénéfice que l'Esprit communique aux petits. Et c'est important de comprendre que le mot grec, charisme, a donc bien dans le texte que nous venons considérer le sens de cadeau et non le sens de don-titude ou encore moins le sens du mot charisme. Et c'est en tenant compte de ces faits qu'il faut considérer le texte de Romains, de Paul s'adresse sur ce sujet, dans Romains 12. Paul utilise l'image du corps pour souligner que chaque chrétien appartient à l'Église et à sa place. Il le fait aussi pour exhorter chaque chrétien à tenir sa place dans la communauté chrétienne sans entretenir le prétention d'accessibilité. Cela implique de ne pas chercher un ministre qui serait au-delà des compétences et de ses capacités. De ne pas se surestimer et de ne pas convoiter la place des autres. Quand on voit dans les autres, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ou, je n'ai pas besoin de... C'est ça. Et pour éviter toute mauvaise compréhension sur le mot charisme, on pourrait traduire comme ayant chacun des cadeaux selon la grâce qui nous a été accordée de manière diverse. Et le genre de cadeau, si on regarde dans Romains 12, le cadeau, c'est la prophétie, c'est le service, c'est l'enseignement, c'est l'encouragement. On continue maintenant celui qui donne, celui qui dirige. Celui qui exerce la compassion dans Romains 12 de 6 à 8. Et on voit ici l'idée charisme ou la capacité ou l'aptitude personnelle n'est pas dans le texte. La liste de cadeaux que Dieu apporte par grâce ne comprend que des activités, des ministères, des services qui entrent dans la vie et la communauté de Dieu. Il n'est pas mentionné que Dieu a donné des dons de prophétie, c'est-à-dire la capacité de prophétie, mais c'est la prophétie elle-même qui est donnée en cadeau. Et parmi les cadeaux accordés par grâce figure la libéralité. Celui qui donne, dont l'exercice demande non pas des talents, des attitudes personnelles, mais certains moyens économiques. Donc, Dieu donne les choses, et lui, il peut donner. C'est en vertu de la grâce de Dieu accordée à chaque chrétien, avec des c'est un don qui c'est un don que nous le méritons. C'est un peu aussi ce que Paul dit dans ce passage-là, dans ce même chapitre-là, il dit que le don de l'apostolat, il a reçu par grâce. Puis encore ici, c'est Paul qui a reçu le don et l'attitude d'un apôtre. Mais c'est une faveur qui lui a été donnée. La même faveur qui a été donnée à son salut. Il lui a été donné dans son service. C'est la même chose pour nous autres. C'est une grâce qui nous a été donnée de nous sauver. Et c'est une grâce qui nous donne de nous employer dans un domaine. Le domaine que lui-même a décidé de nous employer. Et encore ici, ce n'est pas qu'il ait reçu le don d'être apôtre. Mais encore là, c'est une faveur de Dieu. Puis si on regarde maintenant 1 Corinthiens 12 à 14. Lorsque Paul commence à parler de ce sujet, 1 Corinthiens 12, il débute par des mots au sujet de, ce qui laisse sous-entendre que les chrétiens de Corinthe lui ont posé des questions à propos des manifestations. Et il emploie ensuite le terme pneumatikon, qui est souvent traduit par nos Bibles françaises par don spirituel ou don d'esprit. Mais ce terme signifie tout simplement chose de l'esprit avec dans toute la nuance de manifestation d'esprit. Au chapitre 12, Paul s'efforce de corriger la compréhension de ses lecteurs en employant le mot charisma. Là où celui-ci parlait de manifestation, il souligne par ces mots que loin d'être des manifestations d'une spiritualité performante, ces choses dont on se vantait, dont on se vante, sont certainement des Dieu. C'est pas parce qu'il était plus spirituellement supérieur qui ont eu ces cadeaux-là. C'est une grâce qui ont eu ces cadeaux-là. Et en préférant, c'est-à-dire utiliser encore une fois le mot charisme, pas mais l'accent non sur les attitudes personnelles, mais sur les ministères qui devraient être au service des uns des autres pour l'unité commune et non pour se faire valoir. Le mot charisme apparaît d'abord au verset 4. Et il y a diversité de cadeaux, mais le même esprit. Au verset 8, ce qui est donné, c'est une parole de sagesse, de connaissance. Ce qui est donné, ce n'est pas le don de sagesse ou le don de connaissance. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, selon le contexte dans lequel la personne se trouve. Et un peu plus loin, un autre, la production de miracles, de produire des guérisons. Paul ne parle pas ici d'une capacité que possèdent ces chrétiens-là, mais il mentionne que ce sont des guérisons qui surviennent comme étant des cadeaux. On pourrait traduire, sont donnés en cadeau par le même esprit des guérisons. Puis, il y a diversité de services que Dieu donne à cadeau. Encore là, ça prend toute une signification. L'image du corps qui suit du verset 12 à 26 vise précisément à s'appuyer sur ce dernier point. La diversité de services qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de la communauté et que chacun a une contribution utile à avoir. Et voilà. Dressant ensuite une liste de versets 28 à 30, il va nommer en premier lieu les fonctions ministérielles, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Ensuite, il donne les activités, les miracles, c'est-à-dire ceux qui accomplissent les miracles. Des cadeaux qui consiste en des guérisons, de secourir, de gouverner, de parler divers surprenants. Ce ne sont pas des capacités ou des aptitudes qui sont nommées, mais ce sont des activités, des rôles. Et Paul insiste de nouveau sur la diversité au sein de l'Église. Un ministère ou une activité donnée n'est pas exercée pour tous les chrétiens, par tous les chrétiens, mais chacun en a un différent. Il corrige encore l'idée des chrétiens de Corinthe qui veulent s'attacher à quelques manifestations d'esprit les plus spectaculaires ou les plus impressionnantes. Et là, Paul établit un ordre de priorité, soulignant que certains ministères sont plus importants que d'autres. Et on voit que le ministère apostolique apparaît comme le plus important, puis le ministère prophétique, suivi du ministère d'enseignant, et ainsi de suite. Et dans le contexte, l'exhortation du verset 31 est un appel à rechercher les cadeaux les meilleurs qui vont être les plus utiles au service. Pas plus utiles à moi-même, mais à tout l'ensemble de la communauté. Ensuite, au chapitre 13, l'apôtre va nous expliquer dans quel état d'esprit nous devons exercer ces ministères ou ces activités. Vous connaissez 1 Corinthiens 13, il parle de quoi? De l'amour. Hein? L'amour n'est pas un lieu du don des autres, du sang des autres. Au chapitre 14, Paul va maintenant tirer une application concrète de ce qu'il vient de mentionner au chapitre 12, en insistant sur le parler en langue. Et son argument est que lorsque le parler en langue n'est pas traduit, il est inutile pour l'édification de l'assemblée. Dans l'Éphésiens, Paul nous donne aussi une liste de cadeaux que le Seigneur a donné à son Église. Et encore une fois, ce ne sont pas des attitudes ou des capacités, mais des personnes qu'il a données à son Église. Ce sont les apôtres, dans l'Éphésiens 4. D'accord? Apôtres, prophètes, les évangélistes, les enseignants. Ils sont tous donnés à l'Église pour exercer un ministère. Il s'agit de quatre ministères de la parole pour perfectionner les saints en vue de leur ministère. Donc, chaque membre a en quelque sorte un ministère, mais ces quatre ministères-là sont là pour perfectionner ces ministères-là. Ici, on met en parallèle Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, 28, Romains 12, 6. Vous ferez l'exercice suivant. Avec qu'est-ce qui commence au début? Les apôtres, les prophètes, les serviteurs enseignants, les pasteurs enseignants, ensuite, tout le reste qui descend. Ce sont toutes des personnes qui ont ces ministères-là. Les apôtres, ce sont des personnes, celui qui enseigne aussi, celui qui gouverne, celui qui guérit, celui qui exhorte. Le cadeau qui est donné par grâce à chacun est son ministère. C'est son rôle au sein de l'Église. C'est sa fonction. Les cadeaux qui sont donnés à l'Église, ce sont des personnes qui ont reçu ces ministères-là. Dieu le sait, vous êtes pas mal bourré. En faisant ça, je me suis rappelé la journée, parce que j'ai marché chez nous, puis moi, toute l'après-midi, il m'avait emmené l'évangile. Quelques parties de chez nous, je pense à être grosse. Ce qu'il m'en avait donné. Mais c'était bénéfique, ce qu'il m'a donné, par exemple. Là, je me dis, c'est beaucoup de stuff. Je ne m'attends pas à ce que vous saisissiez, mais au moins c'est un peu un début, parce que moi aussi, ça m'a pris du temps à tout remanier ça et en tout cas à faire une idée là-dessus. C'est beaucoup d'informations absorbées. Ça peut en même temps, des fois, venir en contradiction parce qu'on a déjà. C'est la signification qui a changé avec lui. Mais pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à comprendre où je vais. Comme j'ai dit tantôt, la traduction, tout le temps, c'est la parole. C'est le sens du mot qui a changé. Comme il y a d'autres mots qu'on avait vus qui ont changé avec la vie. Mais on doit revenir au vrai sens que Paul et Pierre ont donné à ce mot. Le mot qu'il a utilisé, quel sens qu'il avait à ce moment-là? C'est comme ça qu'on va voir comprendre. Donc, je vous encourage à chercher non pas vos attitudes, mais vos fonctions dans lesquelles vous pouvez faire valoir vos institutions. Parce que lorsqu'on va avoir trouvé nos fonctions dans le corps, parce que vous avez chacune fonction dans le corps, si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, vous avez une fonction. Comme mes mains ont fonction, mes pieds ont fonction, mes oreilles ont fonction, vous avez chacune fonction. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et lorsqu'on a trouvé notre fonction encore, c'est là qu'on peut utiliser nos attitudes qu'on a avant notre nouvelle naissance pour exercer cette fonction. Étant donné que c'est une manifestation de l'esprit, qui de mieux placé que l'esprit pour nous le donner? Donc, allons devant le Seigneur, puis demandons-lui sincèrement, Seigneur, pourquoi? Où est-ce que tu veux que je sois utile dans ton corps? Il y a plusieurs tâches à accomplir dans le corps de Christ. Puis je suis persuadé que le conseil est disponible pour vous diriger. Et la raison, c'est que on a, comment on appelle ça, un proverbe qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en faisant qu'on apprend à devenir ce que le Seigneur veut. Si maintenant on va à l'école du dimanche, on essaie ça, viens essayer, moi, quand je me retiens. Ce n'est pas ma place. Ils m'ont enlevé de là. Je ne l'aurais pas essayé. Mais il y a pas là, il y a d'autres choses qu'on va essayer. Demandez au Bouddha comme vous voulez là. Fait que c'est en faisant, en essayant divers ministères, que là, on dit, oui, là, c'est ça. Et bien, c'est ça, c'est là que le Seigneur me conduit, puis c'est là que je vais utiliser mes attitudes aussi, mes talents, pour l'accomplir, ce ministère. Dans Éphésiens 4, comme on a vu tout à l'heure, il nous dit que tous ces hommes-là, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tous ces hommes-là que Christ nous a donnés à son Église, il les a donnés pour perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants et flottants, et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est à cela qu'on est appelé. Prions. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole, je te remercie pour les apôtres, les prophètes qui ont inspiré cette parole-là, et les mots qu'ils ont utilisés. Merci aussi pour les docteurs que tu nous donnes aujourd'hui, les spécialistes des langues, qui vont faire comprendre le sens des mots que ces paroles avaient à ce moment-là. Qu'on puisse les comprendre, les mettre en pratique, les se mettre à l'œuvre, pour ton service à toi, dans ton corps.